DW. Le journal. Carole Assignon.
Mercredi 14 avril 2021, il est 17h en temps universel, 19h ici à Bonn en Allemagne, d'où nous émettons. Dans l'actualité ce soir, le Niger en deuil suite au décès d'une vingtaine d'enfants dans l'incendie de leur école. Nous ferons le point sur la situation dans les établissements scolaires du pays. Le mouvement de grève lancé pour protester contre les violences des groupes armés dans l'Est de la RDC est prolongé. Comment les commerçants et habitants de Beni vivent-ils cette situation? Reportage à suivre. Et puis un rapport sur la dégradation de l'environnement. WWF dénonce l'UE comme le deuxième plus grand destructeur de forêts au monde après la Chine. Voilà pour le programme, mais on fait tout de suite le point sur l'actualité internationale et c'est avec Ali Farhat.
Bonsoir Carole Assignon, bonsoir à toutes et à tous. En signe de solidarité avec Taïwan, le président américain Joe Biden a envoyé une délégation non officielle d'anciens responsables gouvernementaux sur l'île voisine de la Chine. Comme l'a montré la télévision taïwanaise, les anciens secrétaires d'État adjoints Richard Armitage et James Steinberg ont atterri à Taipei, la capitale. Ils doivent rencontrer la présidente Tsai Ing-wen ce jeudi. Selon des sources taïwanaises, la Chine a fait part d'une objection sérieuse à cette visite auprès des États-Unis. La République populaire considère en effet Taïwan comme une province renégate qui doit être réunie avec le continent par la force si nécessaire. Joe Biden, qui va marteler ce mercredi dans son discours très attendu sur l'Afghanistan, que l'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique et de ramener les troupes américaines à la maison. Le président américain doit annoncer le départ de tous les soldats américains d'Afghanistan d'ici le 11 septembre prochain, date du 20e anniversaire des attentats de 2001 aux États-Unis. Qui avait provoqué l'intervention militaire américaine.
En Europe, à présent, le Danemark est devenu aujourd'hui le premier pays de l'Union européenne à stopper l'utilisation du vaccin AstraZeneca.
Selon Søren Brostrøm, le chef de l'autorité sanitaire danoise, il existe des indications sérieuses d'effets secondaires graves. La campagne de vaccination se poursuivra donc sans le vaccin de la société britannico-suédoise. Les fabricants BioNTech et Pfizer fourniront à l'Union européenne 50 millions de doses de vaccins de plus que prévu d'ici la fin du mois de juin. Selon l'Union européenne, cela portera le volume total des livraisons de BioNTech-Pfizer à 250 millions de doses pour le deuxième trimestre. En Bulgarie, le Premier ministre Boyko Borisov se retire après plus de 10 ans à la tête du gouvernement. Âgé de 61 ans, Boyko Borisov a annoncé qu'il ne briguerait pas de quatrième mandat et qu'il présenterait un autre candidat pour le poste. Lors des élections législatives de début avril, le parti de Borisov, le GERB, pour citoyens pour le développement européen de la Bulgarie, est redevenu le parti le plus puissant du pays avec 26% des voix, mais n'a pas obtenu la majorité. Par ailleurs, aucun des 5 autres partis au Parlement ne souhaite conclure une alliance gouvernementale avec Boyko Borisov, qui est soupçonné de corruption. Enfin, la violence à l'égard des femmes a augmenté de façon spectaculaire au cours de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'indique un rapport des Nations Unies sur la population mondiale. De nombreuses femmes et de filles se sont retrouvées plus que jamais exposées à la violence sexiste et à des pratiques néfastes, telles que le mariage précoce, selon un rapport publié ce mercredi. Des millions de femmes dans le monde sont également privées de la liberté de décider de leur propre corps, peut-on également lire dans ce rapport. Ainsi, dans cette étude, qui concerne également 57 des pays les plus pauvres au monde, seules 55% des femmes peuvent décider elles-mêmes avec qui avoir des rapports sexuels, si elles veulent utiliser des moyens de contraception, ou alors encore comment se faire soigner.
Les nouvelles du monde avec Ali Farhat. Merci Ali.
DW.
20 élèves morts brûlés, c'est le bilan du drame qui a frappé un quartier populaire de Niamey, la capitale nigérienne, à la suite d'un incendie qui a ravagé 25 classes en paillotte. Ce matin encore, c'était l'incompréhension sur les lieux du drame. Notre correspondant à Niamey, Maru Madougou Issa, s'est rendu sur place. Son reportage.
C'est un espace de 750 mètres carrés abritant 3 écoles primaires et une préscolaire avec une vingtaine de classes en paillotte. On peut aisément comprendre les difficultés qu'ont rencontrées les pompiers pour contrôler l'incendie. 20 enfants dont 17 âgés de 3 ans ont trouvé la mort dans ce drame qui a frappé le quartier Pays-Bas. Jibril Lassamba est le chef du quartier. Il est toujours sous le choc.
Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je n'ai jamais vu un tel drame où des enfants perdent la vie dans ces conditions atroces dans une école. Cet incendie est la chose la pire que j'ai jamais vécue.
Affligée par ce drame, Mariama Iliassou, enseignante dans l'une des trois écoles du site, nous explique que les incendies sont fréquents dans les écoles qui ont des classes en paillote. Ce drame a conduit les responsables de l'enseignement de cette école à réclamer l'installation sur un nouveau site. Sayedi Tchemogo est inspecteur de l'enseignement de base.
C'est le site même qui est exigu. Donc la recommandation que nous pouvons faire, nous pensons que Il faut chercher un autre site sur lequel on peut construire des classes à maturité définitive. Nous estimons que ça peut régler ce problème au niveau de ces écoles des Pays-Bas.
L'arrêt de la construction des classes en paillote est pourtant une ancienne revendication du syndicat des enseignants. Moukaïla Halidou est secrétaire général du SINASEP.
Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Lorsque nous dénonçons avec rigueur, la présence des classes paillotes dans les écoles, nous avons toujours dit qu'il y a de la malgouvernance dans le secteur de l'éducation.
Ce drame du quartier Pays-Bas interpelle aussi le nouveau président nigérien investi le 2 avril dernier, qui a fait de l'école une priorité de son mandat. Maruma Dugisa Nyame pour la Deutsche Welle.
En bref, à présent, des dizaines de combattants djihadistes ont lancé hier une nouvelle offensive sur Damasak, dans le nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Niger. Cette attaque survient quelques jours seulement après une autre qui avait été menée contre des installations humanitaires dans cette même ville. L'attaque avait fait au moins 4 morts et 4 blessés, selon des sources militaires et humanitaires. Au moins 14 civils ont été tués, 4 blessés en Somalie. Le minibus à bord duquel ils voyageaient a été détruit par l'explosion d'un engin dissimulé sur la route. L'explosion, qualifiée par les autorités d'acte horrible et maléfique, est survenue à environ 30 km au nord de Mogadiscio. Nous vous l'annoncions hier, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire va être jugé au Burkina Faso pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987 qu'il a porté au pouvoir. 13 autres personnes sont également accusées dans cette affaire devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Et Mireille Drone, vous avez recueilli des réactions de nos abonnés sur les réseaux sociaux à ce sujet.
Bravo à la justice burkinabé, que la lumière soit faite sur l'assassinat de ce grand révolutionnaire qu'était Thomas Sankara, écrit sur Messenger Jacques de Douala. Que la justice fasse son travail parce que nous avons besoin de savoir la vérité sur la mort de Sankara, souhaite aussi Gauthier de Kisangani. Jadon de Kinshasa estime que Blaise Compaoré mérite la prison à vie et il se demande pourquoi le jugement de celui qui était l'ami intime du président Sankara a traîné si longtemps. Justice pour Sankara qui a été tué par ce faux ami Blaise Compaoré, demande également Eric. Abonné sur Twitter, 34 ans après les faits, Ibrahima de Thiès au Sénégal se réjouit que l'heure de la justice ait enfin sonné. C'est le cas aussi de Shehu du Nigeria. Selon lui, l'assassinat du leader révolutionnaire du Burkina Faso en 1987 est l'une des plus grandes tragédies de l'Afrique. Il sera bon d'entendre Blaise Compaoré expliquer son rôle devant la justice. C'est un processus qui a trop duré. Il est impérieux que le droit soit dit et que les coupables aient des sentences qu'ils méritent, affirme aussi Mahamadou du Mali sur Facebook. Kossivi de Lomé pense que Blaise Compaoré devrait être condamné non sans avoir payé une indemnisation à la famille Sankara. Qu'il soit puni pour haute trahison, souhaite encore Albert de Dakar. Mais Sekouba de Kankan en Guinée n'y croit pas. Selon lui, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, Yoshike de Lagos dit prier pour que justice soit rendue au peuple et que tous les dirigeants africains commencent à en tirer les leçons.
Des réactions sur l'actualité au Burkina avec Mireille Drone qu'on retrouvera tout à l'heure pour d'autres réactions.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Une réorientation radicale de la stratégie actuelle basée sur le tout militaire. C'est la nouvelle approche que recommande la Coalition citoyenne pour le Sahel. Cette alliance d'une cinquantaine d'ONG sahéliennes et internationales a publié lundi le rapport Sahel, ce qui doit changer pour une nouvelle approche centrée sur les besoins des populations. Eliou Koubakin a interrogé Abdoulaye Seydou. Il est le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement basé au Niger. Et il est co-signataire de ce rapport. On l'écoute.
La réponse du tout militaire mise en place n'empêche pas que les populations aujourd'hui soient tuées par centaines, y compris dans des zones dites militaires. Donc aujourd'hui, on remarque que la stratégie du tout militaire, malheureusement, n'arrive pas non seulement à endiguer le conflit, mais elle ne met pas aussi les populations au cœur de la réponse.
Pourquoi cette approche a-t-elle été privilégiée depuis une décennie maintenant, notamment depuis le début du conflit dans le nord du Mali en 2012?
Les organisations de la société civile ont été mises à l'écart de la réponse. C'est beaucoup plus les États et leurs partenaires qui ont pensé à des solutions et qui les ont mis en œuvre. Nous sommes dans une sorte de guerre asymétrique où l'ennemi n'est pas forcément visible et on ne sait pas d'où elle peut sortir et quand. Dans ce contexte, une réponse que militaire n'est pas efficace.
Vous préconisez les discussions avec les groupes djihadistes. Les pays comme le Mali et le Burkina Faso ont commencé à indiquer qu'il faut justement négocier avec les djihadistes. Comment déjà répertorier ces groupes? Et puis, est-ce que cela doit se faire dans chaque pays ou c'est au niveau du G5 Sahel?
Il faut réfléchir à une stratégie politique de dialogue véritablement entre les États et les groupes qui peuvent être susceptibles à cet état de fait. Au fait, c'est une crise sous-régionale, hein. Donc c'est une solution globale. De toutes les façons, le dialogue est une solution incontournable au retour d'une paix durable au Sahel.
Et votre rapport insiste aussi sur la crise de gouvernance des États qui, par ailleurs, ne sont pas administrativement présents sur tout le territoire. C'est cela aussi une solution majeure pour protéger les civils?
Bien sûr, parce que aujourd'hui, quand vous regardez la crise, elle est beaucoup plus grave au niveau des zones transfrontalières, au niveau des zones où l'État n'est pas présent, a une présence limitée ou quasiment absente du point de vue infrastructure sociale, du point de vue infrastructure économique, du point de vue opportunité d'emploi aux jeunes. Mais l'État est aussi faiblement présent du point de vue militaire, ce qui fait en sorte que ces populations sont aujourd'hui exposées à des cas de représailles.
Abdoulaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. Il répondait à Réliou Koubakin. L'assassinat au Mali de l'un des principaux chefs de l'ex-rébellion, Sidi Ibrahim Ould Saddadi, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawatema, qui avait signé l'accord de paix de Bamako en 2015, a aussi suscité des réactions sur la toile. Et on retrouve Mireille Drone.
Oui, c'est vraiment triste, écrit Amadou, abonné malien sur Facebook. L'assassinat de Sidi Ibrahim Ould Saddadi n'est pas seulement une triste nouvelle, c'est un grave événement que je condamne, écrit sur Twitter Thiébélé, qui exprime ses sympathies à toute la famille du défunt, ainsi que ses condoléances au mouvement arabe de l'Azawad et à la direction de la CMA. L'assassinat du président en exercice de la CMA est un acte des ennemis de la paix, affirme l'Aïe de Bamako, tandis que Kanji, autre tweeto malien, pense que ce genre d'acte décrédibilise le gouvernement malien. Les responsables doivent être identifiés et traduits en justice, demande-t-il. Ousmane de Bamako se demande, comme d'autres, pourquoi cet assassinat ciblé. L'infodrome sur Twitter rapporte les propos d'un observateur, selon lequel, dans la région de Tombouctou, d'où est originaire Sidi Ibrahim Ould Saddadi, les luttes d'influence font rage et ont gagné en intensité avec le nouveau découpage électoral. D'autres s'interrogent sur l'implication des djihadistes du nord du Mali, qui considèrent comme adversaires les groupes signataires de l'accord de paix d'Alger, dont était Sidi Ibrahim Ould Saddadi. Mahamadou de Bamako croit de son côté que cela peut être un acte incubateur d'apaisement, en ce sens que la CMA finira par revenir à la raison pour aider l'État malien à en finir avec cette guerre fratricide, ce à quoi Goumar de Kidal rétorque que ce n'est pas en assassinant les chefs de la CMA qu'elle reviendra à la raison. Cet assassinat montre une fois de plus le non-respect des principes des accords de paix et à quel point les Maliens sont contre ce processus, conclut Goumar.
Merci Mireille, merci également à tous les internautes qui réagissent par ailleurs sur notre page Facebook. En Somalie, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmajo a signé une loi controversée prolongeant de 2 ans son mandat expiré en février. Une décision qui vient aggraver la crise politique dans le pays déjà miné par les violences. La communauté internationale a mis en garde contre cette résolution qu'elle considère comme une menace pour le fragile équilibre politique de la Somalie.
Vous écoutez la DW.
à l'écoute de la DW. Il est 17h14 en temps universel. Cela fait 6 jours que la société civile de Beni dans l'est de la RDC a appelé les commerçants à fermer leurs boutiques pour protester contre les violences commises par les groupes armés contre les civils. Ce mouvement a d'ailleurs été prolongé à partir d'aujourd'hui avec pour objectif le départ de la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, accusée de ne pas protéger les populations. Alors comment les commerçants et habitants de Beni vivent-ils cette situation? Élément de réponse avec notre correspondant sur place, John Kanyunyu.
Ce mouvement de protestation qui prend la forme des journées villes mortes serait suivi à 90%, se réjouit Clovis Mutsuva du mouvement citoyen lutte pour le changement sexuel de Beni. Celui-ci dresse le bilan des 10 jours de blocage tout en annonçant la poursuite du mouvement jusqu'à l'obtention du départ de la MONUSCO.
La MONUSCO est inactive, elle est inefficace ici dans la région de Beni. Nous continuons toujours avec des actions et jusque-là nous comptabilisons 4 morts, 10 de blessés et plus de 300 personnes interpellées. La lutte continue jusqu'à ce que nous allons obtenir le départ de cette force qui nous aide à rien, qui est complice de tout ce qui se passe ici dans la région de Beni.
Depuis vendredi dernier, toutes les activités sont paralysées dans les villes de Beni et Butembo, ainsi que dans les territoires de Beni et Lubero, dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Cette situation est un souci pour les supermarchés et magasins d'alimentation qui ont subi des pertes de produits périssables comme le poisson, la viande ou les légumes. Certains commerçants rencontrés devant leurs boutiques fermées affirment qu'ils veulent poursuivre la mobilisation, mais ils ne cachent pas non plus les difficultés que représente une aussi longue fermeture.
Ces manifestations ont impacté négativement tous les secteurs, le commerce et la vie sociale. On mange difficilement.
Jusque-là, il n'y a pas eu de boutiques pillées, nos portes demeurent fermées. Si Dieu décide de nous laisser mourir, nous n'avons pas le choix, mais nous allons endurer cette situation.
Nous sommes disposés à tout le mal qui peut nous arriver. Nos cœurs sont brisés et cette colère peut nous amener à manger un serpent cru.
Bon nombre d'habitants de la région de Beni réclament eux aussi le retrait de la MONUSCO, mais aussi de l'armée congolaise ou de la police. C'est ce que suggère cette dame qui a souhaité garder l'anonymat.
Tout ce que nous savons, c'est que l'ennemi prend les casquettes de la MONUSCO, soit de FRDC, soit de la police. Alors, moi, je suggère que la MONUSCO, FRDC, police, quitte les milliers et puis on verra si l'ennemi va prendre quelle casquette encore.
Le mouvement qui devait normalement prendre fin ce mercredi a été prolongé et devrait durer jusqu'à 18 jours, selon le communiqué du collectif des groupes de pression dans la région de Beni et Butembo. John Kanyunyu à Beni pour la DW.
Et toujours au sujet de la RDC, l'émissaire des Nations Unies dans le pays a rencontré aujourd'hui l'ex-président Joseph Kabila, mis à l'écart par son successeur Félix Tshisekedi avec la fin de leur coalition au pouvoir. La rencontre visait, selon un proche de Joseph Kabila, à avoir le point de vue de l'ancien président sur la situation générale et plus précisément sécuritaire du pays. Elle a eu lieu alors que des manifestations anti-ONU ont éclaté ces derniers jours en territoire de Beni, dans l'est de la RDC, où des habitants dénoncent, on vient de l'entendre, l'inaction des casques bleus face au massacre de civils. Sur le plan sanitaire, la campagne de vaccination contre la COVID-19 devrait commencer lundi, toujours en RDC. Déjà, le couvre-feu a été levé dans plusieurs provinces et allégé dans la capitale Kinshasa. Notez que la vaccination contre le coronavirus est un sujet très délicat en RDC où la méfiance envers le vaccin est répandue. De nombreux messages évoquant des théories du complot sont régulièrement partagés sur les réseaux sociaux. Au Bénin à présent, selon les résultats provisoires partiels publiés hier, le président sortant Patrice Talon a été réélu sans surprise avec 86% des voix, suivi de très loin par les deux autres duos de candidats qui lui faisaient face. Une victoire que conteste l'ancien maire de Cotonou, Lihadi Soglo, au micro d'Éric Topona, le fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui vit en exil en France, dénonce l'autoritarisme du président Patrice Talon et parle d'un État dictatorial au Bénin. On l'écoute.
Désormais, les démocraties ne meurent plus comme la guerre, à travers des coups d'État et des tanks dans la rue. Les gouvernements autoritaires, comme celui de M. Patrice Talon, s'installent désormais au pouvoir à la suite d'élections régulières et commencent alors un processus de démantèlement de la justice, de limitation de la liberté de la presse, de noyautage des instances arbitrales et du redécoupage de manière partisane de la carte électorale. Et c'est à cela que nous avons assisté au cours des 5 dernières années. Et donc, force est de constater que oui, nous sommes désormais dans un état autocratique, dictatorial au Bénin.
En dépit de ce tableau sombre que vous aviez dépeint, est-il encore possible de revenir à la situation d'avant ?
Écoutez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il faudrait que M. Talon et ses partisans comprennent qu'ils sont rejetés par la majorité du peuple béninois. Le faible taux de participation le démontre à l'envi et qu'ils acceptent effectivement de retrouver, disons, les vertus du dialogue avec le peuple béninois dans le cadre peut-être d'assises nationales pour remettre en place notre démocratie, redéfinir les fondements de notre vivre ensemble et reconstruire l'unité nationale qui a été mise à mal, notamment à cause de ces tueries qui ont été perpétrées dans une partie du Bénin, mais aussi à cause des propos à caractère régionaliste qui ont été tenus par M. Patrice Talon.
Votre frère Gagnon Soglo a été blessé par balle dans une embuscade, c'était en février dernier. De tels actes, le Bénin ne les vivait pas jusqu'à un passé récent. À quoi cela est-il dû ?
La dégradation du vivre ensemble, le fait qu'il n'y a plus dans notre pays un état de droit, que la démocratie a été foulée aux pieds, et donc c'est l'état sauvage qui règne.
Voilà, c'était l'ancien maire de Cotonou, les Hadi Soglo, répondait aux questions d'Eric Topona. Concernant toujours le Bénin, au lendemain de sa réélection, le président béninois Patrice Talon a durci le ton aujourd'hui. Il promet de poursuivre et de punir les responsables des violences préélectorales qui ont éclaté dans le centre du pays. Pour de nombreux musulmans à travers le monde, le Ramadan a commencé hier. Pour d'autres, c'est seulement à partir d'aujourd'hui que ce mois de jeûne, qui est l'un des cinq piliers de l'islam, débute. Traditionnellement, il s'agit d'une période de rassemblement et de prière, un mois durant lequel les fidèles doivent notamment s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Alors, comment parvenir tout de même à manger équilibré et sans risque pour la santé durant cette période de privation ? Eh bien, écoutez les conseils de Gabriel Anani, il est naturopathe et conseiller en nutrition.
C'est des périodes qui permettent à l'organisme de se reposer normalement. Et à la rupture, ce n'est pas le moment où normalement on doit compenser l'aliment qu'on n'a pas mangé tout au long de la journée. On doit éviter d'apporter tout ce qui est trop sucré, augmenter la consommation des fruits et légumes qui ont la capacité de pouvoir oxygéner le corps et le nettoyer en profondeur.
Quand on jeûne le soir, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger?
La rupture du jeûne, c'est ne pas aller vers les boissons gazeuses, par exemple, à prendre un coca, un soda. Il vaut mieux aller vers les fruits et les légumes, de l'orange par exemple. Manger l'orange pour avoir les fibres, pour pouvoir bien digérer. Donc aller vers la banane, la pastèque, c'est mieux que d'aller consommer par exemple de la viande. On n'a pas mangé tout au long de la journée, on n'a pas bu. Donc à partir du moment où on commence par consommer la viande, ça affecte le transit intestinal.
Il faut donc privilégier les fruits et les légumes. Et quels sont les aliments à privilégier à l'aube pour rester en forme et tenir pendant la journée?
Se réveiller tout de suite et commencer par manger aussi, ce n'est pas évident. C'est de prendre le petit déjeuner comme nous avons l'habitude de le prendre. Si c'est un café avec du pain ou bien avec de l'œuf, c'est plus consistant. Le matin, je conseille que les gens puissent, si c'est juste un peu du pain pour ceux qui consomment du pain, les tisanes, si c'est le café pour certaines personnes qui aiment prendre le café. Et quand vous vous bourrez le matin, vous avez plus faim. Mais quand le repas est un peu consistant, ça vous permet de tenir jusqu'au soir.
Bien s'hydrater, c'est aussi un conseil qu'on entend souvent en période de jeûne, notamment. Qu'est-ce qu'il faut boire, quelle boisson privilégier pendant le jeûne?
Pendant le jeûne, la boisson la plus recommandée, c'est l'eau. La quantité recommandée à boire est au moins 2 litres. Ce n'est pas quand même évident de le faire. Donc, dans les fruits, par exemple, quand je prends par exemple la pastèque, ça contient énormément d'eau. Les soupes en période de jeûne, c'est bon parce que c'est à base de légumes. Ça apporte beaucoup de minéraux et ça fait du bien à l'organisme.
Les explications et conseils de Gabriel Anani, naturopathe et conseiller en nutrition. En bref, au Cameroun, les forces de sécurité ont arbitrairement arrêté, battu ou menacé au moins 24 personnes soupçonnées d'homosexualité ou pour non-conformité de genre depuis février 2021. C'est ce qu'indique dans un communiqué Human Rights Watch. Les pratiques homosexuelles sont en effet interdites au Cameroun. La loi prévoit des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison, une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA, soit 300 euros, à l'encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec quelqu'un du même genre, du même sexe. En bref, encore, le gouvernement Haïti a présenté sa démission. Un nouveau premier ministre a été nommé, le président Jovenel Moïse, qui a fait l'annonce, a précisé que ce changement visait à s'attaquer au problème aigu de l'insécurité dans le pays en crise. Haïti traverse actuellement une période d'insécurité marquée notamment par des enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Récemment, 10 personnes, dont 7 religieux, 5 haïtiens et 2 français, ont été enlevés près de Port-au-Prince. L'Église catholique haïtienne a dénoncé lundi l'inaction des autorités après ces faits. Les importations de l'Union européenne étaient responsables en 2017 de 16% de la déforestation liée au commerce international dans le monde, ce qui en fait le deuxième plus gros responsable de déforestation importée du globe après la Chine. C'est ce que dénonce un rapport de WWF ce mercredi. Une déforestation qui touche notamment les forêts tropicales transformées en terres agricoles. Les détails avec Ali Farhat.
Selon le WWF, l'Union européenne a contribué indirectement en 2017 à la disparition de 203 000 hectares de forêts tropicales converties en terres agricoles, et ce via ses importations de soja, d'huile de palme, de bœuf, mais aussi de bois, de cacao et de café. Cela représente 16% de la déforestation liée au commerce international. Seule la Chine, avec une part de 24%, fait pire. Tout en soulignant l'apport de l'Union européenne dans la gouvernance forestière en Afrique, Joël Lumeto, responsable du réseau international Arbres tropicaux au Congo, déplore le fait que les forêts cèdent leur place aux cultures de rente.
Je sais qu'il y a des zones forestières qui commençaient à être convoitées pour faire des plantations là-dessus, mais il y a des voies également qui se sont élevées. Je ne veux pas citer des sociétés qui sont arrivées avec ces intentions, mais de plus en plus, on pense que l'on devrait moins attaquer, on devrait moins détruire les forêts au profit des cultures.
Dans la RDC voisine, José Ilanga, directeur des forêts au ministère de l'Environnement, rappelle de son côté que le code forestier n'interdit pas à la RDC de procéder à l'exploitation forestière.
Ce que nous recherchons et nous avons toujours recherché, c'est une exploitation non seulement rationnelle, mais une exploitation durable. Les critiques fusent de partout par moment pour dire que voilà, on exploite pour exploiter. Non, la RDC se trouve au jour d'aujourd'hui un des rares pays dans le bassin du Congo, si pas dans le monde, qui observe les moratoires sur l'octroi de nouvelles concessions forestières. Et les efforts sont fournis dans ce sens-là. Et nos exploitations, nos concessions forestières industrielles sont aménagées. Nous sommes parmi les premiers pays.
En octobre dernier, les eurodéputés ont voté un rapport réclamant à la Commission européenne un tour de vis contre la déforestation, en renforçant la traçabilité des produits susceptibles d'y contribuer et en exigeant que Bruxelles en tienne compte dans ses accords commerciaux.
C'était les précisions d'Ali Farhat. Il est 17h27 en temps universel. On passe au sport.
DW. Le sport.
En football, les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions vont prendre fin ce soir. Deux affiches sont au programme. Le Borussia Dortmund joue contre Manchester City. Le Real Madrid est attendu pour sa part à Liverpool. Le fiacre d'Aïra Guidje.
Les deux équipes se sont croisées à cette reprise en Ligue des Champions. Le Real en est à 4 victoires contre 3 pour Liverpool. Le club espagnol a d'aussi croix inscrit 10 buts durant ses précédentes confrontations européennes contre Liverpool, soit 2 de plus que les Anglais. Au match aller, le Real s'est imposé 3-1 à Madrid. Mais le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, estime qu'il y a possibilité de remonter la pente ce soir.
Le football est tel qu'il est, nous le savons tous, et il y a beaucoup de surprises, des choses possibles. Avant tout, nous parlons de résultats, évidemment, mais pour moi, ce qui est bien plus important, c'est la performance. Nous devons jouer aussi bien que possible, nous devons essayer de gagner ce match, juste cela.
Le Real Madrid dispute ce soir son 36e quart de finale de Ligue des Champions, un record. Son bilan est de 29 qualifications contre 6 éliminations à ce stade de la compétition. Le deuxième match au programme ce soir oppose le Borussia Dortmund à Manchester City. Les Citizens se sont imposés 2-1 à l'aller. L'entraîneur de Borussia Dortmund parle de l'attitude à avoir pendant le match. Nous allons essayer d'envoyer une équipe solide sur le terrain pour saisir la possibilité de gagner le match. Mais il ne s'agit pas maintenant de se concentrer sur ce qui arrivera la semaine prochaine, mais de montrer une performance incroyable contre Manchester City et de laisser se produire quelque chose d'incroyable. Dortmund, Manchester City ou Liverpool, Real Madrid, match à suivre à partir de 19h, temps universel.
L'actualité sportive avec Fiacre Ndairagidj. Je rappelle que vous pouvez continuer de réagir aux thèmes que nous développons dans nos journaux en nous écrivant par exemple sur Facebook. Et puis l'information continue également sur notre site internet DW Français. Il est 17h30 en temps universel. On retrouve à présent Anne Le Touzé dans Vue d'Allemagne.